Je suis en compagnie de Patrick Deville. Nous parlons de Tabataba qui vient de sortir dans cette rentrée littéraire 2017 aux éditions du Seuil. Patrick Deville, le départ de Tabataba, de son projet, c'est la découverte et l'héritage d'archives familiales abondantes. Pouvons-nous commencer par cet épisode pendant l'occupation où elles ont été sauvées ?
Non, ça n'est pas la découverte de ces archives qui a provoqué le roman. Le roman, de toute façon, enfin ce livre-là, je savais que je voulais l'écrire depuis... enfin, en tout cas, parler du lazaret, nous en reparlerons, de l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est une décision qui a une cinquantaine d'années. Et par contre, écrire ce livre français au milieu d'un projet de 12 romans, ça, c'est un projet qui a 20 ans. Et donc, il y a 20 ans, je savais, je croyais sur parole en l'existence de ces archives que je n'avais jamais vues. Et il se trouve, par hasard, mais je n'ai pas assassiné cette vieille tante, qu'au moment où, à peu près, j'en arrivais à ce roman-là, un peu avant, c'est-à-dire que cette tante est morte en mars 2013, le 1er mars 2013. Moi, je l'ai appris, 1er mars, c'est aussi la date de la mort en 1943 d'Alexandre Yersin. Et donc, j'avais été invité au Vietnam sur la tombe d'Alexandre Yersin pour le 70e anniversaire. Et en rentrant à l'hôtel, j'ai appris la mort de cette tante. Je me suis rendu dans cette maison quelques mois plus tard pour la vider et en effet j'ai découvert, enfin j'ai constaté l'existence de ces archives dont j'ai extrait un peu à l'aveuglette quelque chose comme 3 mètres cubes comme je le mets dans le livre sur au milieu de 3 pièces emplies du sol au plafond. Et j'ai évacué ça vers une autre maison au bord de la mer et je n'ai pas touché à cela. Pendant assez longtemps, parce que 2013, moi, je m'apprêtais à écrire le Mexicain Viva. Et donc c'est après l'écriture du Mexicain que j'ai mis le nez dans ces archives. Mais de toute façon, le projet du livre était prévu, parti. Alors il l'a modifié, il l'a enrichi, évidemment, hein, ce lot d'archives.
Puisqu'on imagine la modification qu'il a apportée, notamment par la manière dont vous allez voyager en France. Puisque dans Tabataba, vos pérégrinations sur le territoire français s'effectuent par les archives de cette tante et donc par les archives familiales.
Oui, là encore c'est un hasard, mais je pense qu'il y a des millions de familles en France. À vrai dire, j'en sais rien. Non, vous m'avez posé cette question. En effet, il se trouve que cette famille qui est arrivée, enfin pour une part, quoi, ceux que je prends 5 générations plus tôt, c'est une famille qui rentre en France en 1862 depuis l'Égypte. C'était ces Français qui étaient restés en Égypte dans le sillage de la République française d'Égypte de Bonaparte. Et donc le plus ancien là que je prends dans cette histoire est un paysagiste. Il est en Égypte et il dessine des jardins à la française pour les baies du Caire et d'Alexandrie. Et en 1862, il décide de rentrer en France avec femme et enfant. Et 1862, c'est donc l'apogée de ce Second Empire et la gamine, enfin sa fille, quoi, qui a 4 ans. Avec laquelle il rentre, elle porte comme prénom Eugénie Joséphine, c'est-à-dire les deux prénoms des deux impératrices. Ça donne une idée un peu de qui était cette famille. Et ensuite, ce qui est assez étonnant, en effet, c'est que tout le monde a tout gardé depuis le Second Empire. Et autant, s'il s'agissait, je ne sais pas, d'une demeure familiale, d'un château, de domaine, etc., on pourrait le comprendre plus facilement, mais il se trouve que non. Il se trouve que sur 4 ou 5 générations, ces gens ont été chassés sur les routes, enfin les 3 guerres, quoi. 70-14-40, qu'il y a là-dedans des histoires de camps de réfugiés, de camps de prisonniers, que ces gens-là, en effet, sont, font un tour de France complet, que je n'ai pas choisi, avec toutes ces guerres, un peu, réellement partout en France. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, en effet, ces archives qui ont déjà beaucoup voyagé pour ce qui est des papiers du Second Empire, en mai 40, c'est déjà très ancien, c'est dans une maison à Soissons, dans l'Aisne. Cette famille est éparpillée, le père est sur les routes de la débâcle avec les soldats vaincus, la mère et les enfants sont sur la route, sont à Paris, puis depuis Paris sont envoyés dans un camp de réfugiés dans le midi de la France, et cette maison est abandonnée. Ils la quittent comme ça brutalement en deux jours, et c'est plus d'un an après, un an ou deux après, que quelqu'un, une connaissance qui est sur place, est chargé de vider cette maison. Et on lui demande de récupérer tout ce qu'il peut et de placer ça dans des coffres du Crédit Lyonnais, à l'endroit où lui habite, c'est-à-dire pas très loin, mais enfin tout de même pas du tout à Soissons, mais dans la Marne, à Fismes. Et justement parce que ce type n'est pas de la famille, ne connaît absolument pas l'importance ou l'inintérêt de ce qu'il trouve dans cette maison. Alors bon, c'est de la petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, donc on imagine que, comme dans toutes ces familles, il devait y avoir un petit peu de bijoux, d'argenterie, enfin toutes ces... et de porcelaine, enfin pas... Mais par contre, l'intérêt, c'est que justement, il ne trie rien, et qu'il loue deux très grands coffres au Crédit Lyonnais, qu'il rassemble absolument tout ce qu'il peut trouver dans cette maison à l'abandon, y compris... les vieux journaux du 19e siècle, y compris les courriers, les factures de bois, de fromage, de lunettes, y compris les cahiers d'écoliers, y compris des livres, parce qu'il y a également là-dedans, alors c'est plus récent, enfin c'est tout de même, il y a la première édition de l'Histoire de France de Michelet en 19 volumes, ça aussi, ça prend beaucoup de place. Et il entasse tout cela dans des coffres, et ça va passer toute la Seconde Guerre mondiale dans ces coffres du Crédit Lyonnais, ils vont payer la location, et ils ne remonteront, enfin uniquement le père et le fils d'ailleurs, hein, la mère et la fille ne remettront jamais les pieds dans cette région, ne reverront jamais cette maison. Le père et le fils, en 1946, vont vider ces coffres, mettre tout ça dans des malles, descendre ça dans le midi de la France, et là encore, parce que c'est devenu sacré en quelque sorte, ce sont des reliques, enfin voilà, personne ne va rien jeter, mais ni compulser d'ailleurs. Quoi. Ce sont des mâles qui ensuite voyageront à nouveau du midi de la France vers la Bretagne, et que cette vieille tante va conserver au milieu de tout un fourbi. Trois pièces emplies du sol au plafond, elle est morte à bien plus de 90 ans. Et en fait, c'est ça, enfin, c'était un peu une légende. On me disait que ça existait. Mais je l'ai constaté, en effet, lorsque j'ai vidé cette maison après sa mort.
Mais alors, mon étonnement va venir du fait que vous n'ayez pas voulu avoir accès à ces archives avant, parce que j'imagine que ça faisait légende, ça faisait mythologie en vous, dans votre projet littéraire de ce grand roman français, vous dire, voilà, je vais avoir accès un jour à ces archives, je vais les compulser, j'ai ce projet en tête, mais en même temps, ce n'est pas vous qui allez le provoquer, ça va être le décès de cette vieille tante. Et vous-même, vous allez attendre avant de vous en servir. C'est-à-dire que vous vouliez absolument écrire avant les 5 volumes précédents de votre projet littéraire. Comme s'il vous fallait partir d'abord dans le monde entier, notamment au Mexique avec Viva, et enfin pouvoir vous atteler avec ce grand roman français qu'est Tabataba.
Oui, ce sont des hasards, hein, parce que, bon, d'abord, aurais-je demandé à les compulser que ça aurait été impossible. Elle-même ne les a pas vus. Cette maison-là, dans laquelle elles étaient, c'est une maison qui a été construite au bord de la mer, dans les années 50, Et que donc, dès la construction, ils ont entassé cela, mais au plus profond de, enfin, de ces pièces-là. Et donc, il y a encore après, mais mon Dieu, bien plus de 50 ans où ça reste. Et c'est inatteignable, parce que comme je vous le disais, c'est empli du sol au plafond, chronologiquement. Donc, ni elle ni moi, si tant est qu'elle l'eût accepté, ce qui, jamais elle ne l'aurait dit, parce que c'était légendaire, c'était les pièces du fond. Voilà, ça finira dans les pièces du fond. Et personne n'était entré pendant des années dans ces pièces du fond. Et moi, j'y suis entré comme un égyptologue, enfin, plié en deux, parce que... Et là, il y a toute une chronologie qui commence par le plus récent, c'est-à-dire un bazar indescriptible de... Et puis, il s'agissait de traumatismes de guerre, c'est-à-dire qu'il y a progressivement, quand je progressais dans ces pièces, des réserves phénoménales de sucre, de farine, d'huile, enfin, de boîtes de conserve périmées, de tout ce qui pouvait éventuellement servir à tenir un siège pour une nouvelle guerre. Et puis également, plus loin, d'énormes réserves, bon, elle était institutrice, mais d'énormes réserves de papeterie, de cahiers neufs, de crayons, de gomme, absolument toute une papeterie destinée à écrire de nouveaux journaux de guerre, peut-être enfermés là-dedans. Et réellement, tout au fond, ces archives qui dansaient mal, donc allaient du Second Empire à mai 40. Et donc c'est un hasard parce que moi j'en arrivais au moment où de toute façon j'aurais écrit le livre. Ça, ce ne sont pas les archives qui ont suscité le livre, ça aurait été légendaire. Par contre, c'est tombé juste au moment où il ne me restait qu'à écrire le livre mexicain, puisque ce plan, moi je l'ai conçu il y a 20 ans. Donc je sais également, enfin tout ça sont des histoires de démence, j'en conviens. Mais donc d'une autre démence. Voilà, j'ai décidé il y a 20 ans de ce projet... De 12 livres, j'en suis au milieu et j'en arrivais au moment où de toute façon j'aurais écrit le livre français. Mais comme j'avais le mexicain à finir d'écrire, et pour écrire le mexicain, j'ai séjourné très régulièrement une ou deux fois par an pendant 10 ans au Mexique parce que je veux que tout cela dure longtemps. Enfin, et finalement, je ne savais pas à ce moment-là comment je le construirais, le français. Et ayant ensuite eu accès à ces archives, les ayant un peu dépouillées, analysées, même si je n'ai pas travaillé scientifiquement, j'ai décidé assez vite d'acheter une automobile et de relier chronologiquement tous les lieux de France que je verrais apparaître dans ces archives. Donc ça commence par la Beauce, puisque ce paysagiste... retour d'Égypte investit son petit magot dans des terres céréalières de la Beauce et ensuite, donc le livre commence enfin ce tour au volant de France commence dans la Beauce et ensuite suit ces générations de lieu en lieu jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce lazaret, cet hôpital psychiatrique dans lequel je suis né.
Oui, il y a la célèbre passate. Parce que c'est devenu ce moyen de locomotion, c'est donc ce véhicule Volkswagen, vous l'écrivez en toutes lettres et c'est magistral. La Passat fait partie de Tabataba, elle fait vraiment partie du livre. C'est vraiment le moyen par lequel aussi vous transbahutez une petite partie, à chaque fois une sélection des archives, notamment la presse, pour avoir un peu de plein dans le coffre. Et à chaque fois que vous vous installez dans un lieu, vous ressortez les archives qui ont trait à ce lieu. Et dans le livre, vous les lisez dans le lieu. J'ai envie de vous poser la question sur cette phrase qui m'a vraiment troublé. Vous écrivez « Ce pays nous est inaccessible ». Au moment où vous l'écrivez, je vais citer un peu plus longuement, en cette année 2015, on en comptait 36 658, vous parlez des communes françaises. Divisons par les 365 jours des 12 mois, en visiter une par jour, donc les communes, pendant un siècle ne suffirait pas à les connaître toutes. Et ce pays nous est inaccessible. C'est un constat que vous posez assez tôt dans Tabataba. Votre mode de voyager en France... puisqu'il se fera par l'utilisation des archives familiales et que vous allez visiter les lieux qui sont cités, par ce moyen-là, vous résolvez le problème, votre problème, qui est le pays nous est inaccessible. Non, il n'est pas inaccessible à partir du moment où on se donne une méthode pour en rendre compte, pour rendre compte histoire et géographie mêlées. Et cette méthode, ça peut être l'archive familiale.
Oui, c'est pour ça que j'ai construit le livre ainsi. C'était une question parce que c'est la première fois que j'écris sur, sur la France. Et alors, évidemment, tout de même, depuis bientôt 60 ans, et puis ça m'intéresse énormément, donc je connais bien sûr toutes les préfectures, enfin je pense les sous-préfectures, j'en suis au chef-lieu de canton, mais justement, comme il y a plus de 36 000 communes, allez où ? C'est un peu un genre littéraire, le voyage en France ces dernières années. Enfin, c'est un genre littéraire très ancien, parce que justement, je prends comme modèle ce livre de la fin du 19e siècle, le tour de la France par deux enfants, de Bruno, G. Bruno. Mais allez où ? Il y a eu beaucoup de livres d'enquêteurs ou de journalistes, de reporters sur ce sujet, ce que je ne voulais pas faire du tout, même s'il y en a d'excellents, je pense à Florence Aubenas. Mais ça n'est pas du tout cela que je voulais faire, donc il fallait cette décision de suivre un parcours. Et très vite, en compulsant les archives, je me suis aperçu, et là je n'y suis pour rien, c'est principalement l'armée allemande qui a organisé ce périple immense sur plusieurs générations, sur les trois invasions, ce sont les... Et donc j'ai progressé ainsi. C'était plus compliqué pour un livre français. Pour le Mexicain, par exemple, je ne sais pas, en 10 ans, j'ai sillonné le Mexique, mais je ne sais même pas combien il y a de communes. Bon, le Mexique est un État fédéral, alors je suis allé dans énormément de villes et de villages, mais je n'étais pas confronté à cette tentative d'épuisement. Je me rendais dans des lieux au Mexique sur lesquels je voulais écrire parce qu'ils entraient dans mon projet littéraire, c'est-à-dire les lieux principalement de Malcolm Lowry, de Trotsky, d'André Breton, d'Antonin Artaud. Là, voilà, la seule progression, c'était possible, me semblait-il, c'était ça. Et donc je l'ai fait par tronçon avec cette passade. C'est-à-dire, je n'ai pas fait ça d'un coup. Là, je raconte ce parcours, enfin ma vie, depuis janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, jusqu'en mars 17. C'est donc à peu près 2 ans, et pendant ces 2 ans, j'ai fait des tronçons. Et puis entre chacun de ces tronçons, j'ai repris ma vie normale. Et ma vie normale consiste à faire des tours du monde. Et donc, partout où j'allais, j'ai enquêté sur des petites traces de la France pendant un siècle et demi, puisque tous ces livres commencent en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai intercalé ces tronçons de chemin au volant avec cette passate en France et des séjours un peu partout sur la planète entre ces tronçons.
Parce qu'il ne s'agit pas uniquement effectivement de la France, il s'agit aussi de... Parce que pourquoi votre projet c'est de 1860 à nos jours ? C'est parce que c'était aussi le moment fort de la France. À partir de 1860, à chacun des livres de votre projet, il y a aussi en arrière-fond la France et ses actions et son ambition et ses colonies. On pense bien entendu à Peste et Choléra, par exemple. Quand vous suivez ce savant, voilà, c'est un savant français qui va dans une colonie. Ce qui m'a sauté aux yeux en lisant Tabataba dans vos pérégrinations françaises, c'est vos visites des bars. Vous avez des sublimes descriptions des cafés, puisque quand vous arrivez dans une petite commune, le lieu où vous allez pouvoir vous poser, outre l'hôtel, mais vous poser pour pouvoir compulser les archives familiales, ça va être le bar, bien entendu, c'est-à-dire ce lieu public par excellence, peut-être ce lieu aussi qui représente la France. On peut juste se saisir d'un seul, c'est chez Jules, qui se trouve dans la rue principale de Brame. Je vais vous lire Patrick Deville.
Dans l'obscurité, quatre joueurs de belote et une femme étaient assis autour d'une table en marbre blanc ponctuée de verres de pastis et de cendriers. Au milieu de la salle carrelée trônait un grand poêle dont le tuyau montait à la verticale jusqu'au plafond très haut. Banquette de moleskine rouge le long des murs. Deux types assis au comptoir de bois, derrière lequel officiait Bernard, rencontré la veille au café de la place. Après que la seule cliente était parvenue à soustraire son mari à l'enfer du jeu, la partie de cartes s'était interrompue et nous n'étions plus que sept, comme à l'échouage, dans un angle du vaste local. Tous partageaient l'inquiétude de Bernard quant à l'avenir du temple et l'interrogeaient sur la santé du patron. Celui-là, Julien Bénézé, tenait toujours le café à 90 ans. Mais quelques jours plus tôt, il était tombé, on l'avait hospitalisé. Bernard lui rendait visite. Au retour, il ouvrait le bistrot. Par solidarité avec les habitués, et de clients se faisait tenancier. Est-ce qu'on peut lire aussi cette cartographie de la France par ces bars, c'est-à-dire ces lieux de convivialité où n'importe quel voyageur peut s'abriter, se poser, et notamment lire les vieux journaux de vos archives?
Oui, non, je fais ça un peu partout dans le monde, dans les endroits où il y a des bistrots, c'est un peu partout. Mais là, en effet, il y a énormément d'hôtels, puisque j'ai dormi à l'hôtel, alors là, parfois dans de petits hôtels, etc. Mais ça n'est pas dans les hôtels qu'on rencontre du monde, généralement. Par contre, à l'hôtel, ce qui est très bien, c'est qu'on est absolument seul. Voilà, le cerveau posé sur une tête d'oreiller et qu'on laisse toute cette pensée, naître cette pensée analogique dans la solitude. Par contre, pour enquêter, puisque là, dans le cas de Bram, j'arrivais pour... j'essayais de retrouver l'ancien hôtel de France de la famille Rancoul. Et alors, on peut aller à la mairie. D'ailleurs, à Bram, je le mentionne, je suis également allé à la mairie. J'ai passé des coups de fil, mais je suis allé aussi interroger à la mairie. Mais c'est aussi dans les bistrots, en repérant un peu. Et en effet, très vite, j'ai trouvé, comme on repère un peu, c'est-à-dire des gens pas très jeunes. Enfin non, la première question est une erreur totale, puisque le premier que j'ai interrogé m'a répondu en anglais. Il y a énormément de vieux touristes anglais qui vivent dans le milieu de la France. Mais après, j'ai vite localisé cette petite bande de buveurs de pastis qui en effet m'a renseigné, et puis nous nous sommes revus ensuite, voilà, dans un autre café. Ils m'ont invité, nous avons passé des soirées et j'en ai appris beaucoup ainsi. Enfin, ça, les bistrots restent les endroits où on peut, même si on n'a pas de projet, rencontrer du monde, mais si on en a un, c'est aussi là qu'on peut enquêter. Et puis il y avait aussi ce plaisir de revenir, enfin, parce qu'il y avait énormément de vieux journaux dans ces archives dont je me demandais parfois pourquoi ils avaient été conservés, et je ne les ai pas lus avant de me déplacer. C'est-à-dire, j'ai mis ça dans la voiture. Là, je pense à Dole, dans le Jura, où là, en effet, je suis allé dans un bistrot à Dole, et j'ai ouvert ce journal qui avait été acheté là, dans cette ville à Dole, je ne sais plus, 84 ou 87 ans avant, et je me suis mis à le lire de la première à la dernière page. Et en reprenant, donc en retombant dans une actualité qui était de dizaines d'années plus tôt.
Alors venons-en justement à la lecture des journaux. C'est une de vos grandes occupations de narrateur dans Tabataba, puisque c'est vous qui narrez vos rencontres en France, votre voyage en France, systématiquement entrecoupé de vos voyages à l'étranger. Néanmoins, ce qui tient le projet, c'est vous, Patrick Deville, en tant que, on va dire, raconteur, peut-être pas narrateur, on pourrait employer un autre terme. Vous appuyez sur la lecture des journaux d'époque, et on vous voit et on vous entend lire, parce que vous citez aussi abondamment la presse dans ce livre. Et vous avez deux réflexions qui m'ont paru vraiment sublimes. Vous écrivez « Et ces journaux dans lesquels paraissent chaque jour leurs chroniques, comme tous les vieux journaux, sont à présent des romans. » Et la manière dont vous citez les journaux, enfin ces articles de presse, en tout cas ces extraits, effectivement, vu qu'ils sont inclus dans votre projet littéraire, oui, ça les fait passer pour du roman. Et effectivement, dès qu'on lit la presse antérieure, on s'aperçoit de la qualité de l'écriture, notamment, qui pourrait nous faire penser à
une écriture romanesque. Et puis vous avez cette deuxième réflexion. On retrouve dans l'actualité cette apparence bariolée des événements, ce grand foutoir au-dessus de quoi, selon Hegel, planerait pourtant la raison guidant l'histoire vers son accomplissement. Cette manière dont les événements sont complètement bariolés, c'est comme si on lisait notre presse actuelle, mais dans 50 ans.
Non, mais je lis aussi ce qu'on appelle la PQR, presse quotidienne régionale, partout où je vais, que j'écrive ou non ce livre. C'est toujours un bonheur extraordinaire et dans tous ces livres, j'utilise les journaux et je lis les journaux. Et dans ce livre, je lis aussi les journaux péruviens dans des détails, parce que justement, dès qu'on prend un peu de recul, qu'il soit géographique ou dans le temps, on s'aperçoit que, à la fois, c'est toujours un peu la même chose, mais là, je pense justement à ce journal de 1899 sur ces manifs qui dégénèrent entre Bastille et République. Ça pourrait être écrit hier, hein, avec la différence qu'il s'agit de coups de canne, qu'un commissaire est assommé, c'est encore les CRS, etc. Mais c'est tout de même extrêmement proche. On arrête un anarchiste. Voilà. Mais par contre, en effet, à partir de faits divers et de détails de journaux, pour peu qu'on fasse l'effort de replonger ce journal dans toute son époque, là, cette phrase hégélienne que vous citez, C'est la lecture de la presse de 1935. C'est-à-dire que pendant que le paquebot Normandie est en train de battre le record du ruban bleu de traversée de l'Atlantique, il y a quatre écrivains à bord qui sont reporters. Il y a Colette, il y a Sandras, il y a Farrer. Pour la première fois, parce qu'il y a aussi les progrès techniques à chaque fois, ils envoient des papiers tous les jours pendant la traversée grâce à la TSF du bord, et ça paraît dès le lendemain dans les journaux, et j'ai lu ces journaux dans lesquels chaque jour il y a un papier, enfin dans un journal il y a un papier de Sandras, dans l'autre il y a un papier de Colette, etc. Mais en lisant les journaux intégralement, et on est en 35. Et nous qui connaissons la suite, c'est ça qui est extraordinaire, bien évidemment, à la fois monstrueux, quoi. Pendant le voyage inaugural du Normandie, on voit que l'armée mussolinienne atteint les 900 000 hommes, que Schuschnigg déclare qu'il n'y a pas de place pour le national-socialisme en Autriche. Enfin, on voit tout cela à monter. Nous qui connaissons la suite, c'est aussi ce qui est extraordinaire. Et puis des petits détails, c'est-à-dire que pendant, c'est très court, hein, cette traversée, c'est le record du monde, c'est 4 jours et quelques. C'est là aussi que Lawrence d'Arabie se tue à moto sur une route de campagne anglaise. Et alors là, ça renvoie plutôt à avant, quoi, enfin la Première Guerre mondiale, ce grand rêve de l'écrivain. Entraînant les Arabes vers Aqaba, le grand royaume arabe, etc. Enfin, tout cela, en effet, est extrêmement romanesque. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fiction dans ces livres. Enfin, je n'invente rien. Enfin, si, j'invente la langue, j'invente la construction, j'invente la manière, évidemment, de faire de la littérature avec cela. Mais tous les personnages, tous les événements, tous les lieux, toutes les dates sont absolument vérifiables, je n'invente absolument rien. Et c'est cela qui est immensément romanesque.
Immensément romanesque, et qui peut provoquer au lecteur, c'est ainsi que je l'ai lu, un vertige chronologique. Ce que vous nous racontez, Patrick Deville, là, en même temps que vous parlez, on saute les époques. Vous lisez la presse, et vous savez de 1935, et vous savez ce qui s'est passé après. Et c'est ce vertige chronologique de lire la presse écrite par des personnes au présent, mais qui n'avaient aucune idée du futur, ou une vague idée, ou des pressentiments, mais nous, d'aujourd'hui, nous savons tout ce qui s'est passé. Et ça provoque une sorte de vertige chronologique. Or, dans votre livre, et souvent dans votre œuvre, mais particulièrement dans Tabataba, on peut avoir dans un même paragraphe plusieurs chronologies qui se chevauchent. Le moment présent, où vous êtes dans un bar, par exemple, à lire la presse, où vous citez la presse de l'époque, hop, on revient en arrière. Ça vous fait penser à un ancêtre, on revient encore plus en arrière, pour mieux revenir vers le futur du moment où a été écrit l'article. Et ces jeux chronologiques sont vertigineux et provoquent une
une excitation. Alors, je me suis dit comment on pourrait qualifier ce vertige, comment on pourrait qualifier ce processus. C'est une sorte d'aplatissement des échelles, j'ai eu l'impression, d'aplatissement des échelles chronologiques. Est-ce que vous voudriez après appeler ça, je ne sais pas, déchronologie, achronologie, surchronologie? Est-ce que vous avez essayé de théoriser après avoir écrit Tabataba ou en l'écrivant?
Non, mais nos vies ne sont pas chronologiques. C'est justement ce qui fait la différence entre le récit ou la littérature ou le travail d'historien. Je lis évidemment les historiens, je sais l'histoire, sinon je ne pourrais pas écrire ça. Et puis, bon, ce sont des histoires d'enfants, je suis hyperamnésique, je ne peux pas oublier une date. Donc je sais, voilà, quand je lis une date dans un livre ou dans un journal, je sais ce qui s'est passé cette année-là ailleurs, et voilà. Mais par contre... Cela ressemble à... Enfin, c'est la pensée analogique. Ça ressemble au demi-sommeil. Il y a des points de contact, des petits courts-circuits, mais de la même façon, chacun d'entre nous, enfin, dans la journée, nous avons 8 ans, nous avons 40 ans, nous pensons à la veille, nous pensons l'instant d'après, à 10 ans avant, sur presque rien, sur un mot, sur une odeur, sur... Et donc, oui, le livre est écrit un peu ainsi, comme s'il s'agissait du demi-sommeil, avec de la pensée, enfin un mélange de pensée logique et de pensée analogique, c'est-à-dire de choses très logiques. Là, quand je pense quand un tel exemple d'un paragraphe qui zigzague ainsi, quand je suis en Chine, je quitte le Shandong parce que j'ai rendez-vous à Jinan, avec notre ambassadeur de France, qui est de passage à Jinan. Je suis dans nous rencontrons dans un hôtel. C'est donc ça la partie extrêmement logique. C'est-à-dire qu'il y a une logistique. Il faut acheter des billets de train, des billets d'avion, réserver des chambres d'hôtel, etc. Et préparer un entretien. Et puis au cours de cet entretien, où effectivement moi je vais le voir pour l'interroger sur la France et la Chine aujourd'hui, et reprendre l'histoire de la France et la Chine depuis 1860, lorsque la France et l'Angleterre, pour une fois coalisées, ont saccagé le palais d'été à Pékin. Ce que les Chinois n'ont pas oublié, on l'a un peu oublié à Paris, mais les Chinois non, c'est-à-dire que le palais d'été à Pékin, il est comme Radour-sur-Glane dans l'état où les Français l'ont laissé en 1860. Ce qui a sauvé la France, c'est cette lettre de Victor Hugo en 1860 s'élevant contre le sac du palais d'été par les Anglais et les Français, qui lui est déjà en exil, Victor Hugo, interdit de séjour en France. Donc nous parlons de ça avec l'ambassadeur et puis nous parlons du présent, donc du présent de 2015, des rapports entre la France et la Chine. Donc tout ça est très logique, politique. Et puis on en vient à parler de... On en vient à parler de l'immobilier diplomatique français. Comme vous le savez, depuis quelques années, la France, qui a des difficultés économiques, dilapide son patrimoine diplomatique parce que ça ne se sait pas trop et puis que tout de même, ça renfloue les caisses. Et donc, se sépare de lieux magnifiques et prestigieux. Et nous en venons dans la conversation parce que peu de temps avant, je suis à Vienne, en Autriche, et que j'ai appris donc que le palais Glamgalas, qui abritait l'Institut français d'Autriche, venait d'être vendu au Qatar. Ce qui provoquait aussi l'ire des Autrichiens, que la France vende au Qatar ce palais. Et nous continuons notre conversation, et il me dit, mais vous savez aussi que nous avons des problèmes avec la résidence de France à Londres. Et alors là, c'est à cause d'un voisin millionnaire qui voulait creuser dessous un musée d'automobiles, etc. Et là, d'un coup, parce que ça vient dans la conversation, ce qui n'était pas du tout prévu, je suis là-bas, parce que je connais cette résidence, Kensington Gardens, et je suis là-bas à la fin des années 80 avec les petites bandes de Charlie Hebdo et du Canard Enchaîné. Et je me souviens, je revois d'un coup, voilà, son prédécesseur, parce que lui aussi a été ambassadeur de France en Grande-Bretagne, mais son lointain prédécesseur, donc à la fin des années 80, et je revois qu'il a bu Volinsky dans cette soirée extrêmement agréable. Et puis d'un coup, voilà, court-circuit, je suis le 7 janvier 2015 dans un chalet en Suisse, dans le Valais, et me reviens, alors que je suis toujours dans cet hôtel à Jinan en Chine, d'un coup, je suis dans ce chalet où je me souviens parfaitement que ce 7 janvier 2015 au matin, j'étais en train de travailler sur Malraux pour ce livre. Et j'en étais juste à lire cette phrase de Malraux disant que quand il a appris la défaite de Dien Bien Phu, donc en mai 54, il était dans un chalet dans le Valais avec des touristes qui contemplaient le Mont Blanc. Et alors je pose les anti-mémoires, je me lève, je vais vers la fenêtre et je regarde le Mont Blanc parce que je sais aussi que de ce chalet, par-delà le lac l'aimant invisible, on voit le Mont Blanc lorsque c'est bien dégagé. Et à ce moment-là, j'ai une alerte sur mon téléphone et j'apprends l'attentat à Paris et la mort de Cabu, de Volinsky, etc. Là, je viens de le raconter, j'ai mis très longtemps à raconter cela, mais justement, dans le livre, ce sont quelques phrases, ce sont des courts-circuits qui font qu'on se promène à la fois dans le temps, dans l'espace, et comme nous nous promenons, enfin comme notre cerveau tout seul se promène dès que nous sommes allongés comme ça par petits contacts, court-circuits analogiques.
Court-circuits analogiques liés aussi à votre fonction cérébrale qui est l'hypermnésie. Court-circuits, parce que c'est systématisé dans votre livre, Patrick Deville, dans Tabataba. C'est-à-dire qu'il y a sans cesse ces actions, ces jeux chronologiques qui sont terriblement excitants, qui sont sublimes. Et là, vous avez pris 5 minutes pour nous expliquer un de ces jeux-là, comment ça fait des sauts. J'ai l'impression qu'il y avait déjà cela dans les 5 autres volumes de votre œuvre qui se tient, que vous avez prévu en 12 volumes, mais que là, c'est systématisé vraiment à un point quasi absolu. C'est ce que vous vouliez faire aussi ?
Non, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut. C'est même Proust. Hein. On n'écrit pas ce qu'on voudrait, on écrit ce qu'on écrit. Hein. Et non, autant on peut prendre énormément de décisions, ça c'est la partie logique, il y en a qu'on ne peut pas prendre. C'est-à-dire qu'après, ce sont les livres qui se font, ce sont les livres qui commandent, ce sont les livres qui s'écrivent, sauf à tricher absolument, on ne peut pas décider d'un style, par exemple. Hein. Les livres se font ainsi. Il y a des décisions rationnelles. L'achat de la Passat Volkswagen, la décision de réserver des chambres d'hôtel, des billets d'avion, de prendre des rendez-vous, de lire des livres, de prendre des notes, tout cela est rationnel. Mais après cela, il y a quelque chose qui fait que le livre vient et qu'on ne peut pas aller contre. De la même façon que quand on essaie de force, on voit bien quand quelque chose ne va pas, n'entre pas, ne tient pas dans une page ou dans un chapitre, le livre le recrache. Et on a beau essayer de le mettre parfois de force, c'est impossible. C'est le livre qui commande, c'est l'économie du livre, c'est l'équilibre, et on ne maîtrise pas tout. Et je crois même que pour ce genre de livres, qui sont quand même pour toute une part rationnels, c'est un projet d'au moins 30 ans, ce projet. Il y a plein de décisions rationnelles, enfin, toute la première partie, tous ces séjours, ces lectures, ces rendez-vous, dans chacune de ces zones géographiques où je décide d'écrire un livre, je lis toute la littérature, les grands morts, je rencontre les vivants, je lis également leurs livres, je fais des entretiens, ou dans Kampuchea, je suis de loin en loin, j'assiste de loin en loin à Phnom Penh au procès des Khmer Rouges. Tout ça est complètement rationnel. Mais justement, à un moment, et ça pourrait finalement donner lieu à du reportage, ça pourrait donner lieu à du récit ou à un travail historique, et que ça ne devient de la littérature justement que lorsque ça échappe. Parce qu'au bout d'un moment, ça échappe. C'est-à-dire au bout d'un moment, lorsqu'on en arrive, et c'est vraiment la toute fin à l'écriture, parce que ces livres, je les écris extrêmement vite, après des années et des années de préparation, de notes, je les écris très brutalement et de la première à la dernière phrase. et là, est dans un état d'hallucination tel qu'en effet, là, quelque chose échappe complètement et devient, si tout va bien, de la littérature.
Est-ce que ça peut alors se rapprocher de ce qui se passe en vous quand vous êtes à l'hôtel ? On a bien parlé de ce qui se passait quand vous étiez dans un bar. Vous avez esquissé à un moment donné de l'interview que l'hôtel était le lieu de la solitude, on pouvait rassembler des éléments. Ça me fait penser à cette phrase d'une de vos occupations à l'hôtel et aussi peut-être la mission que vous vous assignez. Je vous cite Patrick Deville. Comme un satellite voyant rouler sous lui la planète et consignant les millions d'événements quotidiens, ou tel cet historien selon Fénelon qui ne serait d'aucun lieu ni d'aucun temps, immobile sur ce lit, les yeux fermés, je tentais de saisir la simultanéité du monde.
Oui, alors ce genre d'expérience, c'est très différent de ce dont je parlais tout à l'heure, de la pensée analogique et du demi-sommeil où on laisse la pensée rouler sur elle-même et son parcours chaotique, zigzagant, au gré des courts-circuits. Comme dans le demi-sommeil ou l'endormissement. Là, il s'agit au contraire d'un travail totalement différent. C'est un travail de grande concentration. L'exemple que vous prenez... Bon, je ne suis pas dans un hôtel, là, justement. Je suis dans l'appartement des hôtes de la résidence de France à Lima, au Pérou. Et j'arrive de Soissons. Et j'ai apporté avec moi les carnets d'un père et de son fils, qui donc sont séparés par la défaite. Et bon, là encore, il se trouve qu'il s'agit de mon père et mon grand-père, mais ça pourrait être des millions d'autres Français. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où ceux dont c'est le métier n'écrivent plus, en mai 40, donc là je fais une petite liste, enfin voilà... De James Joyce. Il y a Claude Simon qui est sur la route des Flandres qui écrira cela longtemps après. Joyce, pour lui, c'est absolument terrible parce qu'il vient enfin de terminer Finnegan's Wake et qu'il est convaincu que la Seconde Guerre mondiale est une vaste conspiration contre l'apparition de son grand œuvre. Et donc il va se suicider au Pernod quasiment en zone libre, enfin quand il va arriver en Suisse. Enfin, ceux dont c'est le métier d'écrire n'écrivent plus. Et puis il y a comme ça des millions de petites gens qui, confrontés au désastre, à l'incompréhensible, se mettent à remplir des carnets, quoi, à écrire ce qui leur arrive. Des carnets qui sont des journaux avec la date. Et en effet, relisant au Pérou ces journaux, je me concentre, moi, parce que je sais l'histoire, je prends comme cela des dates et des lieux. Et j'essaie, voilà, je prends le 24 mai 1940, et je me dis, voilà, donc le 24 mai 1940, il y a ce père qui a 50 ans, qui fait 120 km à pied avec un groupe de soldats vaincus en attendant d'être évacués sur la Bretagne, et finalement enfermé dans un camp de soldats vaincus à Châteaubriant. Il y a le fils qui a 14 ans, qui est complètement perdu, qui est avec sa mère et sa sœur, on les envoie dans un camp de réfugiés dans le sud où ils retrouvent des réfugiés républicains du Midi qui eux arrivent du sud et eux arrivent du nord. Et ce jour-là du 24 mai, c'est à 4h du matin, le premier attentat contre Trotsky à Coyoacán à 4h du matin, dans lequel le petit-fils de Trotsky est blessé d'une balle dans le pied. Il se trouve que je le connais bien, Sieva, le petit-fils, puisque je l'ai rencontré pour écrire le livre précédent. Et donc le jour où ce type, qui est aujourd'hui octogénaire, reçoit cette balle dans le pied, l'un marche sur la route. Je calcule le décalage horaire, c'est-à-dire que 4h du matin à Mexico, c'est déjà 11h du matin. Donc je vois où ils sont tous à cette heure-là. Et que ce jour-là, il y a un tremblement de terre à Lima, au Pérou, où moi je suis, qui tue 250 personnes. Donc c'est cette vision, oui, satellitaire, de voir tout ce qui se passe au même moment, à la même heure, sur la planète.
Plusieurs fois dans cet entretien, vous avez parlé de la littérature, de la fiction, du rôle de la littérature quelque part. Il y avait presque cette, pour qualifier votre projet, vous aviez parlé de folie. Et en même temps, vous avez beaucoup parlé de raison. Et tout ça pourrait tenir justement par un projet qui est d'ordre littéraire. Vous avez dit que ça devient de la littérature quand ça échappe. C'était votre manière de écrire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez tout rassemblé, ça y est, vous écrivez presque d'un seul tenant le volume. Vous dites aussi qu'il n'y a pas de fiction. Et en fait, tout tiendrait dans cette forme-là parce que vous appuyez aussi quelque part sur une forme roman, même si ça pourrait être qualifié plutôt de roman documentaire.
Oui, ça, je ne sais pas trop. Le fait, comment dire, c'est... Moi, je sais bien pourquoi je me suis lancé dans ce projet. J'ai écrit auparavant des romans de fiction. J'ai écrit 5 romans aux éditions de Minuit qui viennent de reparaître en un seul volume au Seuil, donc je ne les renie absolument pas. Et c'est de la littérature expérimentale post-nouveau roman du XXe siècle. Mais donc ça ne me satisfaisait pas. Et j'ai cherché pendant des années une autre forme et j'ai inventé ce projet. Hors norme, quoi. Parce que tout de même, Proust a écrit La Recherche en 9 ans, c'est de la rigolade. Alors que là, je voulais terminer Tabataba le 21 février 2017, parce que Pura Vida, le premier de la série, commence le 21 février 1997 à Managua, Nicaragua, et que donc ça faisait 20 ans pile. Là encore, c'est le livre qui commande, j'ai eu du retard, je termine le 11 mars 2017, quelques jours après. Mais donc c'est tout de même 20 ans. Et depuis 20 ans, j'ai donc ce projet. Enfin, maintenant, mon éditeur a les sujets, a les zones géographiques, a les titres. Et moi, je travaille sur tous ces livres en préparation, jusqu'à ce que je décide à un moment de les écrire, là encore très brutalement. Donc c'est un projet, en effet, démesuré. Quoi. La seule interrogation, c'est de savoir si ça excède ou pas mon espérance de vie. Quand j'ai pensé ce projet, en fait, j'étais très optimiste. Je pensais que je le mènerais à bout. Maintenant, j'espère encore le mener à bout. Mais enfin, il faudrait que j'accélère un peu, parce que 20 ans... après tout, j'en sais rien, c'est peut-être jouable. Quoi, mais, c'est aussi extrêmement fatigant physiquement, puisque ce sont... ça nécessite ces voyages incessants, ces séjours incessants, ces tours du monde incessants. Je ne sais plus quelle était votre question. Oui, c'est un sujet un peu... je n'aime pas dire dément, parce que il y a un rapport entre cette folie, qui est la folie de la littérature, et par contre un travail extrêmement rationnel, parce que le gros du travail, en volume en tout cas, en temps passé, c'est un travail extrêmement rationnel. C'est de lire toutes les littératures, c'est d'aller absolument partout, c'est d'étudier l'histoire, c'est de faire des entretiens, c'est de... Donc c'est un travail de recherche finalement assez rationnel avant que ça ne devienne littéraire.
Et seule la littérature, Patrick Deville, est à même de faire tenir ce projet. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a la littérature, parce que vous faites œuvre littéraire, que ça peut tenir et que ce n'est pas du côté de la folie, mais c'est du côté de la raison créatrice, de la raison de l'art.
Oui, mais justement pas scientifique, quoi. Alors là, évidemment, non seulement je lis les historiens, mais je les fréquente, je parle avec eux et que j'ai un immense respect pour leur travail. Mais on ne peut pas faire ça. Ce petit exemple que je viens de donner de zigzag entre la Chine, l'Angleterre, la Suisse, dans un seul paragraphe et en passant d'un siècle à l'autre, etc. On ne peut pas faire ça si on écrit de l'histoire. Par contre, c'est ce que peut et c'est ce que doit la littérature.
Ma dernière question portera sur votre hypermnésie. Parce qu'à vous entendre, je suis terriblement impressionné par le fait que... ce que vous restituez dans vos livres, c'est véritablement dans votre cerveau. C'est-à-dire que j'imaginais tout un travail de rassemblement, de documentation de ce que vous faites, mais que vous n'y souveniez pas forcément de tout le détail des dates qui vous arrivent
Or, à vous entendre, je me rends compte que c'est une de vos facultés intellectuelles, cette hypermnésie. Est-ce que vous en avez conscience de cet atout que vous avez, qui est un atout pour votre projet, qui est votre hypermnésie? Parce que il y a plein de gens, plein d'écrivains, plein de créateurs qui n'ont absolument pas du tout cette attribution, cette faculté intellectuelle.
Oui, chacun d'entre nous, quand tout va bien, on réussit à faire un bouquet de ses faiblesses. Et au contraire, ce qui est extrêmement négatif, quand ça va bien, on transforme ça en atout. Cette hypermnésie, alors je ne sais pas exactement, mais je m'interroge beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je rencontre régulièrement, ça apparaît aussi dans Tabataba, des spécialistes de... parce que la neuroscience progresse beaucoup, et que ça m'intéresse beaucoup. Bon, il y a le fait, vraisemblablement, c'est peut-être une hypothèse, mais enfin, j'ai été enfant doublement enfermé, donc d'une part à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, et d'autre part à l'intérieur de cet hôpital, dans une coquille en plâtre, pendant très longtemps, où je n'avais rien d'autre à faire que regarder le plafond. Donc on m'a appris à lire très vite, on m'a enseigné les autres disciplines très vite, ce qui fait qu'ensuite j'ai été dispensé de scolarité. Donc tout ça fait un monstre, bien sûr. Et que cette hypermnésie était socialement une calamité totale. Auprès des autres enfants, par exemple, de mon âge, qui me détestaient. Donc c'était au contraire un handicap énorme. Alors peut-être que je suis parvenu à en faire, à l'utiliser, mais au lieu que ça devienne une calamité, d'en faire un atout. En même temps, je suis quand même toujours jaloux de... parce qu'il est plus logique d'oublier, l'oublier aussi a une vertu, que c'est assez monstrueux de ne pas oublier. Alors ça a des avantages, je peux réciter ces livres, mais après tout... je ne sais pas, j'ai aussi des camarades à la Comédie Française. Un bon comédien, on peut dans la semaine lui dire machin, un rhume, tu reprends Ruy Blas, tu reprends Don Juan, etc. On peut mémoriser un rôle et le ressortir instantanément. C'est pas si étonnant que ça. Je suis davantage étonné que des écrivains ne puissent pas réciter un livre qui est apparu il y a 2 mois. Quoi. Je me dis, mais enfin, c'est quand même très très curieux. Mais en tout cas, moi, je peux les réciter. Là encore, ça serait juste un numéro de cirque. Par contre, pour la construction de ces livres, enfin de la façon dont je les écris, parce qu'après avoir fait pendant des années toutes ces recherches, puis pendant des mois la construction, c'est-à-dire je m'interdis complètement pendant le travail de recherche et de construction d'écrire des phrases. Et à la fin, il y a une telle rétention, c'est-à-dire au bout de très très longtemps, des années, que lorsque je me mets à écrire la première phrase, c'est avec une jubilation extraordinaire et une vitesse extraordinaire, et que j'écris le livre du début à la fin. Et là, par contre, je ne vérifie plus, je ne retravaille plus, enfin, je ne rouvre plus les carnets, etc. J'ai des fichiers, évidemment, puisque j'ai fait la construction. J'ai des fichiers avec ces petits titres en grâce, en majuscules. Et puis l'intérêt, même si ces livres sont indépendants les uns des autres dans ce cycle, ils peuvent être lus dans le désordre, ils peuvent être lus... mais néanmoins, la lecture, évidemment, n'est pas du tout la même si on les lit ou dans l'ordre, ou au contraire à rebours. Par exemple, si on prend Tabataba, puis qu'ensuite on lit Viva, puis qu'ensuite on lit Peste et Choléra, puis Kampuchea, on voit bien, parce que je traîne avec moi à la fois des événements, une petite bande de personnes, de lieux. C'est-à-dire, dans Tabataba, sont pratiquement, enfin, même j'en suis absolument sûr, les écrivains et les personnages qui m'importent. On y retrouve William Walker, on y retrouve Savonion de Braza, on y retrouve Gordon, on y retrouve, tous ces... On y retrouve Yersin, beaucoup. Donc je les traîne avec moi. Et il y a des vies comme ça, je distille des détails. Il y a des vies que je n'écrirai pas in extenso, à un moment, mais qu'on peut reconstruire de livre en livre parce que j'ajoute des détails sur ces vies lorsque je les croise à nouveau, qu'on peut aller chercher. J'imagine un jour effectivement une édition Il y aura un jour des éditions hypertextes qui produiront des lectures complètement différentes, quoi. Où on pourra, ça j'avais fait une expérience déjà sur un chapitre, où on peut, en posant le doigt sur un mot, retrouver toute l'architecture. Enfin, et alors là, ça peut... puisque là, la première trilogie apparue, Sic Transit, donc ça fait déjà... c'est déjà assez long, je sais pas, ça va faire 850 pages, les trois premiers. Tabataba, c'est la fin de la deuxième trilogie, donc on doit arriver déjà à pas loin de 2000 pages. Donc au bout d'un moment, si je parviens à terminer cela, c'est une... oui, c'est un monde dans lequel, pour peu qu'il y ait à un moment, non plus seulement ces index, comme l'imprimerie les fait depuis longtemps, mais le moyen de naviguer complètement dans l'œuvre... c'est cette tentative, quoi, de baigner toute la planète dans un siècle et demi d'histoire. Et un siècle et demi, parce que je dis 1860 à aujourd'hui, mais en même temps, je ne m'interdis pas de remonter au XIIe siècle, de remonter à l'Antiquité, de remonter voilà, pour le temps d'une phrase ou d'un paragraphe.
Voilà. Merci infiniment, Patrick Deville.